Notre thème de ce matin, et je l'ai intitulé « Besoin, raison et foi ». Nous verrons quelques éléments de cette alchimie un peu bizarre qui est en nous et que Dieu oriente tantôt d'une manière et tantôt d'une autre.
Où est Sarah, ta femme ? Elle est là dans la tente, leur répondit-il. Puis l'Éternel lui dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir ? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aie un enfant âgé comme je suis ? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel ? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. » Saisie de crainte, Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, » dit-elle. « Si, tu as bel et bien ri, » répliqua l'Éternel.
Le deuxième texte est dans le livre des Actes, au chapitre 7, les versets 22 à 34. « Ainsi Moïse fut instruit dans tout ce que connaissaient les Égyptiens et devint un homme puissant dans ses paroles et ses actes. Quand il eut 40 ans, Moïse décida d'aller voir ses frères de race, les Israélites. Il vit un Égyptien maltraiter l'un d'eux. Il prit la défense de l'homme maltraité et pour le venger, tua l'Égyptien. Il pensait que ses frères, les Israélites, comprendraient que Dieu allait leur accorder la délivrance en se servant de lui. Mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, Moïse rencontra deux Israélites qui se battaient et il voulut rétablir la paix entre eux. « Mes amis, leur dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous » Mais celui qui maltraitait son compagnon repoussa Moïse et lui dit, « Qui t'a établi comme chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer, comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Quand Moïse entendit ces mots, il s'enfuit et alla vivre dans le pays de Madian. Là, il eut deux fils. 40 ans plus tard, dans le désert proche du mont Sinaï, un ange apparut à Moïse, dans les flammes d'un buisson qui brûlait. Moïse fut étonné en voyant cette apparition, mais comme il s'avançait pour regarder de plus près, il entendit la voix du Seigneur qui disait « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se mit à trembler de peur et n'osait pas regarder. Alors le Seigneur lui dit « Ôte tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Viens maintenant, je vais t'envoyer en Égypte. »
Une publicité récemment placardée sur les bus dans la région de Londres, la ville de Londres, disait ceci: Dieu n'existe probablement pas, alors détendez-vous et profitez de la vie. Le gros sous-entendu de cette affiche, hein, qui s'étale sur un bus, comme on a nos bus un peu publicitaires, c'est en fait, Dieu est un mythe qui ne penserait qu'à vous brimer ou vous empêcher de vivre, donc laissez tomber et, sous-entendu, achetez tout ce qu'on veut vous vendre pour faire votre bonheur. Mais simultanément, un même placard du même avis, du même genre, est affiché à New York sur les bus et dit, avec une finesse un petit peu plus acérée, « Pourquoi croire en Dieu ? Vous pouvez tout à fait être bon sans lui. » On n'écarte pas l'hypothèse de l'existence de Dieu, mais si cette hypothèse est vérifiée, on peut très bien se passer de lui pour faire de bonnes choses, en toute indépendance. Alors ces citations ne sont qu'un échantillon de l'athéisme militant, mouvement de pensée qui prône, disons, le rejet de toute religion, christianisme en tête évidemment. Cette année commémorative de la naissance de Calvin nous rappelle que l'annonce de l'Évangile a toujours été, depuis des siècles, et disons depuis la venue de Jésus et son ascension, a toujours été un sujet polémique. Et l'Évangile partagé étant une puissance pour le salut de quiconque croit, eh bien, il suscite des réactions qui peuvent être enthousiastes, ça nous réjouit évidemment, mais aussi des réactions d'hostilité, d'indifférence, comme on le voit aussi beaucoup aujourd'hui. Et du temps de Calvin, en 1536 environ, Calvin à Genève, bon c'est vieux, on n'y était pas, mais les écrits qu'il nous a laissés nous laissent supposer qu'il y avait une espèce de ferveur chrétienne dans la société qui fédérait les gens, beaucoup plus que ce n'est le cas aujourd'hui, au point que Calvin avait en fait un peu l'ambition que Genève devienne une république dirigée selon les principes bibliques. On pourrait considérer cette époque et cette ambition réjouissante, mais nous savons bien qu'un gouvernement religieux va vite vers un échec programmé, ou alors il se maintient par la violence, comme on le voit actuellement dans certains états religieux, où le pouvoir politique et la religion sont confondus. En Europe, depuis le XVIIIe siècle environ, le siècle dit des Lumières, assez ténébreux en fait, il y a une forte pression idéologique qui a prôné deux séparations. Première séparation dans l'individu, entre la foi et la raison. Deuxième séparation dans la société, entre la religion et le pouvoir politique. Début du XXe siècle, surtout, loi de 1905 en France. Alors, cette laïcisation de la société occidentale, cette séparation entre religion et pouvoir n'est pas mauvaise en soi, mais présente des inconvénients. Par exemple, si la foi est considérée comme une affaire strictement privée, eh bien, par conséquent, tout appui de l'État à une quelconque religion n'est plus de mise. Ce courant de pensée est en train de se radicaliser aujourd'hui et la neutralité confessionnelle du pouvoir politique, si c'est une bonne chose en soi, tend un peu à devenir une hostilité sournoise envers tout ce qui est religieux. L'usage, par exemple, de bâtiments publics pour le partage de l'Évangile, devenant par exemple interdit au nom de la laïcité. Laïcité, nouvel intégrisme. Personnellement, j'aurais tendance à me soumettre, je dirais volontiers, à un pouvoir politique qui m'impose des droits et des devoirs, qui me dit en fait ce que je dois faire pour contribuer à l'intérêt collectif, et peut-être non seulement à l'intérêt collectif, mais préserver l'ordre social. Mais je serais enclin à contester ce pouvoir s'il prétendait m'imposer ce que je dois penser ou ce que je dois croire en mon intimité. Sylvain Dupertuis nous a rappelé récemment qu'on ne pouvait prouver ni l'existence de Dieu, ni la résurrection ou la présence du Christ, mais nous pouvons donner des indices de cette réalité par notre manière de vivre. Seulement des indices. Alors en somme, à nous de montrer des signes de notre espérance, à Dieu de convaincre, pas mélanger. Ça a l'air simple tout ça. Ben, c'est pas si simple que ça. Ce matin, j'ai pensé, en préparant ce bref message, j'ai pensé à notre situation un peu particulière de notre communauté. Je le dis là pour les visiteurs qui seraient parmi nous. Alors, dans notre communauté, nous sommes devant la nécessité de trouver à la fois un nouveau conseil communautaire et un nouveau pasteur, tout en même temps, si au moins c'était bien décalé dans le temps, mais non, tout en même temps, bien. Et comme je fais partie de la commission de recherche d'un nouveau pasteur, j'avais un peu en moi cette question un peu lancinante. On fait des séances et des séances On a déjà fait 8 ou 9, hein, des soirées comme ça, se creuser la tête, à la limite, poser cette question, mais où est la personne que Dieu nous destine, quelque part, pour résumer comme cela. Alors j'ai un petit peu cette caricature dans l'esprit. Si Dieu prévoit, dans sa grâce, un homme ou une femme pour prendre le relais au ministère de Harry, pourquoi se plaît-il à nous cacher cette personne? Et pourquoi devons-nous passer des soirées et des soirées à nous creuser la tête sans même avoir la certitude que ça sera la bonne personne que nous vous présenterons à l'élection? Est-ce que Dieu n'aurait pas avantage à nous donner carrément son nom et son adresse de manière à nous éviter cette recherche empirique et peut-être un peu fastidieuse? Alors, on va approfondir un petit peu cela. Comment faire pour distinguer entre nos besoins, notre raison et notre foi? Comment ça marche ensemble? Et comment comprendre ce que nous devons faire dans ce que Dieu veut faire? De très nombreuses personnes, croyantes ou pas, connaissent au moins vaguement l'histoire de Moïse, cet enfant sauvé des eaux du Nil, un enfant destiné à la mort par un décret impérial, un décret pharaonique, disons, et il a été sauvé des eaux et élevé, ensuite élevé à la cour de Pharaon dans des conditions princières au niveau culturel. C'est un destin très particulier, l'histoire de Moïse. Et Moïse, qui aurait dû mourir en bas âge, comme ses compatriotes hébreux masculins, a été sauvé comment? Par le sentiment d'une femme, le sentiment d'une jeune femme, probablement la fille de l'empereur, la fille du pharaon. Et le sentiment de pitié de la fille du pharaon a éclipsé le décret impérial. Elle a recueilli l'enfant qui devait être la pâture des crocodiles. Quand on y réfléchit, la fille du pharaon aurait elle aussi pu se fâcher et en voyant un enfant hébreu caché dans une petite corbeille dans les papyrus, elle aurait pu se fâcher et parce que cet enfant était la preuve évidente que ses parents voulaient se soustraire au décret impérial. Et évidemment, on comprend les parents, mais il y avait quand même le décret impérial. Alors, en l'occurrence, quand on est esclave, qu'est-ce que représente le fait de se rebeller contre l'ordre impérial? Alors, la fille de Pharaon, elle aurait pu faire fouiller tous les papyrus environnants et pour voir si il y avait d'autres petits berceaux flottants dans les parages et faire noyer immédiatement ces jeunes enfants. Alors, elle est admirable, cette femme. Elle ne fait pas du tout ça. Et on peut dire, cette femme, elle fait triompher la raison du cœur, c'est-à-dire le sentiment de pitié de ce petit enfant, sur la raison d'État. Et ses sentiments personnels la conduisent à épargner la vie de ce petit garçon, pleurant, vulnérable, caché dans une corbeille. Or, nous le savons, ce sentiment du cœur accomplissait de manière tout à fait limpide un projet de Dieu. On le sait avec le recul. Mais en poursuivant notre lecture du texte de Moïse et de sa vie, notre élan d'enthousiasme sur le pouvoir de ses sentiments tombe très vite tempéré. Il n'y a pas une règle. En effet, quelque temps après, Moïse lui-même, rescapé du Nil grâce aux sentiments de la fille du Pharaon, va aussi lui-même éprouver un sentiment de solidarité, de compassion, comme celui dont il a bénéficié lui-même. Mais lui, son sentiment s'adresse à ses frères hébreux tenus en esclavage. Il a une position d'élite, il a du pouvoir et il a un sentiment de compassion. Mais son sentiment à lui ne va pas avoir le même effet. Et lorsqu'un jour il voit ses compatriotes se faire maltraiter par un chef égyptien, il n'écoute que son cœur, il écoute son sentiment, comme la fille du Pharaon avait écouté le sien à son endroit. Et son indignation parle, et il prend la défense de son compatriote opprimé. Trop violemment, certes, puisqu'il a tué l'Égyptien. Et cette réaction, finalement, trouvait son origine dans un sentiment de pitié et de solidarité. Alors, Actes 7, 25, que nous avons lu, que Sylvain nous a lu, donnait une explication au sentiment de Moïse. Et ça va nous arrêter une minute. Le texte d'Hébreux, d'Actes dit « Moïse, à ce moment-là, pensait que ses frères, les Hébreux, comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne le comprirent pas. Moïse, voyant ça, s'est dit « Ah, je me suis peut-être trompé. Peut-être pas les bons sentiments, c'est peut-être pas la bonne manière d'agir. » Alors il a fait la morale à ses deux frères qui se battaient pour je ne sais quel motif. « Homme, frère, vous êtes frère, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Réaction d'un des belligérants. « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Et Moïse est tellement effrayé des dégâts que fait son intervention qu'il fuit, il prend la fuite, lui qui était un homme de pouvoir, un homme au sommet de la hiérarchie politique, il part en courant, il prend la fuite dans le pays de Madian et ça dure 40 ans. Il a eu le temps de réfléchir pendant ces 40 ans et il a probablement pensé que pour lui c'était fini, que l'Égypte c'était fini. On en a un indice, dans le sens que il s'est marié à Madian, il a ici établi, il a eu deux fils, et son occupation consistait à faire paître les moutons de son beau-père. J'aurais tendance à dire, par déformation professionnelle, que Moïse était un peu surqualifié par rapport à sa tâche. Quoique, on m'a demandé à Michel Cretenier, peut-être que l'élevage des moutons, c'est pas si facile. Hein. Enfin, Moïse avait quand même une culture politique notamment, qui aurait peut-être pu le destiner à autre chose. Évidemment, avec le recul de l'histoire, nous considérons que les conditions exceptionnelles du sauvetage de Moïse, son éducation brillante qu'il a reçue dans toute la connaissance des Égyptiens, et les Égyptiens n'étaient pas des manches, hein. Eh bien, une certaine logique nous conduit à penser qu'il devait avoir une destinée exceptionnelle. C'est une logique. Moïse lui-même, il a pensé ça. Moïse a pensé cela. Hein? Du fait de son statut d'élite sociale, il n'est pas étonnant qu'il ait eu cette intuition de devoir agir un jour en qualité d'instrument de Dieu en faveur de son peuple. Ils pensaient qu'ils comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Ils ne l'ont pas compris. C'était peut-être une pensée forte, comme on dit. Pensée forte, hein. Spirituelle, affective, on ne sait pas. Pensée forte. Bon, eh bien, on peut aussi appeler ça le syndrome du survivant. Le syndrome du survivant, c'est un état psychologique que quand les gens meurent autour de nous, quelle qu'en soit la cause, puis que nous, on n'est pas touchés, ben, quand on survit à ça, ben on a une espèce de rumination, on se demande toute sa vie pourquoi on n'y est pas resté aussi. Et donc, à quoi doit servir notre vie ainsi épargnée? C'est un syndrome qui est très connu. Le grand problème de Moïse, c'est qu'il s'est envoyé lui-même dans cette grandiose mission de libérateur, juste 40 ans avant que Dieu ne l'y appelle réellement. Moïse a agi de manière cohérente, rationnelle, avec de la compassion, sur la base d'une forte intuition, et cette intuition lui dictait de faire un acte fort pour que ses compatriotes comprennent qui il était et voient qu'il fallait le suivre comme libérateur. Mais en l'occurrence, Dieu ne lui avait rien demandé et on ne connaît rien de sa foi à ce moment-là. Alors, c'est un peu embêtant. Parce qu'une fois un sentiment produit un résultat magnifique, l'autre fois un sentiment proche produit un désastre. Abraham et Sarah, dans l'épisode d'Abraham et de Sarah, il y a beaucoup plus qu'une intuition, qu'une pensée forte, qu'une déduction ou quoi que ce soit. On est carrément dans une promesse formelle. Dieu est intervenu, Dieu a dit explicitement. Et lorsque les trois visiteurs angéliques, enfin théophaniques, ces trois visiteurs viennent voir et sont de passage pour dire à Abraham, l'année prochaine, Sarah aura un fils, Eh bien, elle en pouffe de rire. Sarah, elle entend, elle écoute aux portes. Bon, c'est de bonne guerre, mais elle ne pouvait probablement pas être en présence pour des raisons de coutume sociale, ne pouvait pas prendre part à ce repas. Donc, elle est derrière la toile de la tente et elle écoute. Et puis, quand elle entend ça, elle se marre. Parce que, bon, elle se dit, oui, c'est ça, à 100 ans. Tout le monde sait que c'est l'âge rêvé pour avoir des enfants. Et puis, ces visiteurs, ils sont comiques, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, j'ai 100 ans, je suis stérile, je suis vieille, bref. Naturellement, sa raison est soutenue par son expérience, par sa vie, par son âge. Aussi, lorsqu'elle est découverte, pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Elle dit « Ah non, je n'ai pas ri ». Et puis le texte, il est marrant, il dit « L'Éternel lui dit, oui, tu as ri, certainement tu as ri ». Il y a des tas de versions qui sont drôles, plus drôles les unes que les autres. « Si tu as ri, tu as bel et bien ri ». Enfin, les textes sont assez marrants. Moi, j'aime bien que Dieu nous parle comme ça, finalement. Et un commentaire du plan de la Ligue pour la lecture de la Bible nous dit que après la promesse, Abraham et Sarah se sont dit « Bon, il y a 9 ans qu'on a eu la promesse, on n'a toujours pas d'enfant, il faudrait peut-être qu'on s'y mette, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose, parce que cet enfant, il ne va peut-être pas nous tomber du ciel. » Ils ont peut-être eu un élan de bonheur, puisque Sarah était stérile, réputée stérile. Ils se sont dit « Bon, ben, il faut qu'on fasse quelque chose. » Donc, Sarah a proposé à Abraham, « Écoute, couche avec ma servante, et puis je prendrai l'enfant, c'est la mère porteuse. » C'est pas nouveau, la mère porteuse. Et donc, ils ont voulu obéir à une promesse dont ils étaient conscients. Ils se sont dit, il faut agir. On ne peut pas laisser passer les années lorsqu'on est dépositaire d'une promesse formelle et claire de Dieu qu'on doit engendrer une descendance. Cette histoire de mère porteuse, soit dit en passant, hein, la notion de mère porteuse qu'on peut faire avoir un enfant, une femme stérile pouvait faire un enfant à son mari, à une autre, pour le recueillir et l'adopter aussitôt. C'est une pratique, j'ai lu ça, qui était licite dans le code d'Hammurabi, juste 1800 ans avant Jésus. C'est pas nouveau. Quoi qu'il en soit, Sarah et Abraham ont adopté un comportement raisonnable. Ils suivent une certaine logique dans leur souci d'obéir à Dieu. Peut-être, se disent-ils, comme nous le dirions aujourd'hui, que Dieu nous laisse le choix des moyens dans l'obéissance, dans notre obéissance. Ils ont peut-être appliqué avant l'heure ce proverbe un peu social qui dit « Est-ce que nous n'avons pas aussi tendance à mélanger ce qui relève de nos besoins, de notre raison et de notre foi ?» Ma question initiale était « Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas nous donner carrément l'adresse et le numéro de téléphone du futur pasteur qu'il nous destine ? Ça irait quand même mieux. » Eh bien, il y a un peu comme une similitude avec la question du mariage. On en a parlé d'autres fois. Dieu ne nous donne pas le nom et l'adresse de notre futur conjoint. Il nous donne juste 3 consignes qui sont hétérosexualité, promesse de fidélité et vie commune indépendante de nos parents. Bon, pas beaucoup, mais tout le reste, effectivement, là, c'est à nous à gérer. Bien. Il a sorti ses consignes d'une très belle remarque générale. Je suis avec vous tous les jours. C'est important. Peut-être que la question se pose par quoi nous sommes dopés ? Qu'est-ce qui nous dope ? Qu'est-ce qui nous fait avancer ? Qu'est-ce qui nous fait prendre des décisions ? Résoudre des problèmes ? Bouger ? Peut-être certains parmi nous savent faire de la mécanique. Par exemple, quand on a construit la maison, là, y en a qui savaient faire un tas de choses. Ils ont fait de la technique, soudé, Raymond et d'autres, carreler du sol, peindre, tirer des fils, génial. Mais peut-être que certains savent faire de la mécanique et ils savent entretenir ou faire marcher un moteur ou régler un moteur, etc. Nous autres, les normaux, les ignares en mécanique, nous ne savons pas faire cela. Mais Rien ne nous empêche d'utiliser le moteur de notre voiture. Parce que même si on ne sait pas comment ça marche, on est vite passé de la réflexion à l'intuition, puis de l'intuition à la conviction qu'il faut mettre de l'essence, puis de l'huile, et puis qu'au fond ça marche, même si on ne sait pas comment ça marche. Je vais faire une petite allégorie là. Le moteur de notre voiture, c'est un peu ce qui l'a fait avancer. Mais il y a aussi un moteur qui l'a fait diriger, puis à nous, etc. Et dans l'être humain, il y a aussi, on est un peu comme un véhicule hybride qui a plusieurs moteurs. C'est la mode, grande mode, les voitures hybrides. Elles ont plusieurs moteurs, génial. Et donc, il y a des moteurs qui se complètent, qui nous poussent en avant, qui nous font agir avec ou sans notre volonté. Si c'est sans notre volonté, c'est un réflexe. C'est clair ? On agit des fois sans notre volonté, par réflexe. Là, on n'a rien mentalisé, ça se fait tout seul. Puis il y a des fois où ça marche avec notre cerveau et notre volonté parce qu'il y a un intérêt. Quand il y a un intérêt, alors là, la machine marche autrement. Là, le temps avance. Disons, tu peux nous projeter le moteur 1 rapidement. Le moteur 1. Oui, on peut mettre ça. C'est un théoricien qui s'appelle Abraham Maslow. Il a montré un peu comment on était construit. Moteur 1, c'est le besoin. Vous voyez, c'est on lit de bas en haut. On a les besoins physiques, existentiels. Et puis, quand on a pu avoir assez à manger, à boire et tout ça, on peut avoir l'étage au-dessus. Ça se lit de bas en haut. Ça, c'est le moteur du besoin. On fait beaucoup de choses parce qu'on a besoin de les faire. Alors maintenant, le moteur numéro 2, c'est le moteur de la raison. On va mettre le 2 entre 2. Merci beaucoup. La raison, le mécanisme de la connaissance, est un puissant moteur qu'on a au fond de nous, qui nous pousse à aller plus loin, à comprendre plus loin. Alors on peut commencer par constater quelque chose, puis après il y a différents paliers, jusqu'à ce qu'on comprenne comment ces choses marchent. Vous savez, les bateaux qui naviguent, qu'on peut mettre 330 000 tonnes de pétrole et de grains dessus, ils ont compris, Archimède, Newton, je ne sais pas lesquels, comment ça marchait. Puis quand on le construit, il pèsera 1000 tonnes, mais on en mettra 300 000 dessus. Tout ça, ça a été ce mécanisme pour comprendre exactement comment les choses sont à partir d'un simple constat. Ah, maintenant, il y a un troisième moteur qui est très intéressant, c'est celui qui nous intéresse le plus, c'est le 3. Alors, prière et foi, justement, là, on est en plein là-dedans, n'est-ce pas ? On peut avoir une intuition, et puis on part d'une circonstance, on ne sait pas exactement. Il y a une intuition, une pensée par analogie de la foi, on pense dans la Bible, comment ils ont fait les autres, comment ils ont été, on tâtonne. On en déduit que, n'est-ce pas ? Il y a une pensée conforme à la prophétie générale, on sait qu'il y a des choses qui doivent arriver. Alors là, c'est conforme à la prophétie. Le sentiment d'une conviction intérieure, c'est vraiment que ça nous concerne parce que c'est fort dans une personne. Et puis, on peut avoir une pensée prophétique de circonstances pour une situation. Là, c'est vraiment tout proche d'une révélation circonstancielle. Et enfin, on peut avoir une révélation directe de Dieu. Là, une révélation directe, c'est magnifique. C'est que Dieu dit, c'est comme ça. Le décalogue dicté, la dictée. Merci beaucoup. Alors, ce moteur de la foi, c'est la force d'orientation. C'est ce qui nous dirige. C'est une force qui nous dirige, qui nous conduit vers une finalité et qui conduit notre véhicule hybride vers une destination. On connaît la direction générale, nous l'avons vu, mais pas toujours les étapes. On va vers le royaume, mais les étapes. On ne sait pas exactement. L'itinéraire détaillé, on ne le connaît pas exactement. Voir Abraham, voir Moïse, voir Sarah. Dieu ne nous envoie pas un pilote automatique. Il nous donne quelques indications, quelques facultés. Et je dirais, Dieu ne fait que ce qui nous est impossible de faire. C'est pourquoi il ne nous donne pas l'adresse et le numéro de téléphone de notre futur pasteur. Et même s'il nous donne des indications précises, vous avez vu qu'on peut passer à côté. même volontairement. Pensez à Jonas. Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive, prêche la repentance. Enfin, va lui dire qu'il y a une catastrophe qui va arriver. Bon, Jonas se dit, avec Dieu, je me méfie. Je me méfie. Hein? Alors là, il y a son raisonnement qui se met en marche. Je vais annoncer un châtiment à Ninive. Les gens pourraient se repentir. Et Dieu, comme je le connais, il va encore être capable de leur pardonner. Et il va encore pas les punir. Puis moi, j'aurai l'air malin. Alors ça, c'est le raisonnement de Jonas. Donc, je prends le premier bateau et je vais à Tarsis, à l'opposé. Ça, c'est le raisonnement d'un homme qui dit, non, moi, je veux pas avoir l'air pomme. Je veux, je veux pas risquer ma réputation. Donc, en conclusion, à défaut de recevoir une révélation directe et audible et vraiment profonde de Dieu, par quoi allons-nous être mobilisés ? Eh bien, nous sommes facilement enclins à confondre entre nos moteurs, voire leur carburant. Et cette alchimie de besoin, d'intuition et de foi ne produit pas forcément ce que Dieu souhaite. Abraham et Sarah en sont une brillante démonstration. J'ai retourné le problème dans tous les sens. J'ai cherché des tas de personnages de la Bible que Dieu a employés. Il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de formule qui nous empêche de nous tromper. Il n'y a rien qui supprime la possibilité de se tromper. Parce que c'est précisément le lot de toute l'humanité que d'être faillible. Dieu seul est infaillible. C'est comme pour la guérison. Pour la guérison, et on n'a pas trouvé la formule. On aimerait bien l'avoir, mais on ne l'a pas. Et nous restons dépendants de Dieu, même avec une brillante déclaration de foi. Si je persévère dans l'idée que Dieu devait me donner le nom et l'adresse de notre futur pasteur, ou si j'étais jeune, de ma future épouse, eh bien, ce serait grave, parce que ça voudrait dire que je souhaite que Dieu soit à mon service. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Dans certaines circonstances, les moteurs du besoin, de la raison, ne suffisent plus, parce que la pente devient plutôt comme un mur. Et c'est alors la déraison de la prière, la déraison de la supplication, la déraison de l'attente confiante, qui doivent prendre le relais pour passer le mur de l'impossible. Quoi qu'il en soit, ces situations déboussolantes ne sont pas l'affaire de spécialistes qui sont désignés pour aller à la casse. C'est l'affaire de tous, de tout un chacun. L'unique remède à cette frustration, parce que c'est une frustration, eh bien, c'est de s'en remettre à Dieu dans la prière, dans le partage de la parole. C'est aussi rejeter la question de savoir qui a tort ou a raison. Qui a tort, qui a raison. Non ? On a tous parfois tort, parfois raison. Et je souhaite que le Seigneur nous conduise dans ce temps de tâtonnement tout à fait biblique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.